France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
2 mois après sa première élection, le président Emmanuel Macron lance une expression promise à une belle carrière. Il veut faire de la France une start-up nation, un pays de jeunes pousses, comme disent ceux qui n'ont pas peur d'être ringards, ou un État géré comme une start-up. L'ambiguïté de la formule explique sans doute une bonne part de son succès. À propos de tout cela, le mérite en tout cas de cette formule, c'est d'attirer l'attention sur une réalité souvent passée sous silence. Ces nouvelles entreprises ne sont pas seulement vantées par le pouvoir politique, elles sont aussi rendues possibles par des aides publiques massives. Et pendant ce temps, les services publics, sans doute plus occupés à conserver qu'à innover, pour innover, sont délaissés et bientôt exsangues. Ce contraste va structurer la suite dans les idées cette semaine, après la sociologue Marion Fleischer qui vient partager les résultats de sa recherche sur le monde des startups. C'est en effet le réalisateur Jean Boiron-Lajoux qui nous rejoindra pour évoquer son documentaire récemment sorti sur les écrans, Hors Service. Bonjour Marion Fleischer, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre et vous publiez aux presses de Sciences Po le monde des startups. Alors j'aimerais qu'on commence d'abord par la définition, c'est très compliqué. Vous-même au début, vous tâtonnez, vous prenez tout un tas de possibilités et au fond en vous lisant je me suis dit... C'est les meilleurs objets sociologiques, ceux qu'on ne parvient pas à définir, parce qu'au fond, toutes ces bagarres pour la définition sont autant de matériaux dans une perspective, et vous vous en réclamez, de l'étiquetage sociologique, celle de Howard Baker. Et donc, l'enjeu pour vous au départ, c'est de savoir ce que les gens appellent start-up et pourquoi ils l'appellent start-up. Qu'est-ce qu'on peut dire, en gros, une fois qu'on a débroussaillé cette première étape ?
Effectivement, c'était à la fois une difficulté de cette recherche de m'intéresser à un objet qui était très peu défini. Il n'y avait pas de définition officielle. Le terme start-up renvoyait à aucune catégorie juridique, statistique d'entreprise. Et en même temps, c'était un objet extrêmement chargé de représentations sociales, symboliques, médiatiques. Il y avait autant de fantasmes autour de cette catégorie liée au success stories de la Silicon Valley que de critiques. Hein. Ça commence à émerger aussi au moment où je m'intéressais à cet objet.
Puis elle était omniprésente, cette catégorie, dans les médias, dans la presse, où tout le monde parlait de start-up, en fait.
Absolument. Donc il y avait aussi un intérêt à étudier cet objet, parce que c'était un objet qui occupait une place croissante dans les discours politiques, médiatiques, et notamment au moment où je commence cette thèse, c'est exactement le moment où
Emmanuel
Macron...
Cette recherche est contemporaine de son objet, en large partie, parce que finalement, ça naît très peu de temps avant le début de votre travail.
Absolument. Je travaille déjà dessus quand ça commence à vraiment prendre de l'ampleur médiatiquement, quand Emmanuel Macron entre en campagne. Et donc, ça légitime aussi un peu mon objet, tout en éveillant la suspicion quand même de mes collègues dans le champ de la recherche, parce qu'il y a quand même d'usage en sciences sociales de mettre à distance les catégories qui sont utilisées justement par les acteurs de terrain, d'autant plus quand, ce sont des catégories qui font l'objet de désaccords, de luttes. Mais voilà, il fallait trouver une façon d'approcher cet objet sociologiquement. Donc c'était tout l'objet de cette recherche, c'était de porter un regard sociologique sur ces entreprises, comprendre de quoi était le nom sans les essentialiser a priori.
C'est ça qui vous a conduit toujours dans la logique de Howard Baker à titrer le livre Le Monde des Startups, en faisant un écho à son concept de monde de l'art, c'est-à-dire qu'au fond on ne peut pas donner une définition de l'art, mais il y a un univers social qui s'occupe de ça, qui s'occupe de se bagarrer pour définir l'art et puis de s'activer autour de la production de l'art. Mais c'est pareil pour les startups, c'est-à-dire qu'il y a un univers et c'est cet univers social que vous avez décrit dans votre enquête.
Absolument. Enfin, quand j'ai relu Les Mondes de l'art, le parallèle était assez saisissant parce que s'il parle de monde, c'est aussi pour déconstruire l'idée que l'artiste ferait l'œuvre d'art tout seul dans son atelier, tel un génie créateur. Et lui, tout l'enjeu, c'est de réinscrire l'artiste dans un réseau d'acteurs, de structures, de ressources qui aiguillent, épaulent, soutiennent la création artistique, et effectivement de rendre compte des logiques étiquetage qui font qu'une œuvre d'art va être considérée comme de l'art par des acteurs qui en ont le pouvoir. Et donc, en lisant ce livre, je me suis dit effectivement que le parallèle était saisissant avec l'entrepreneur qui, lui aussi, est souvent associé à un certain nombre d'idéaux, de mythologie liés au fait que l'entrepreneur siliconien créerait tel ingénie sa start-up dans son garage. Enfin, il y a vraiment cette analogie aussi avec l'atelier. Et donc, moi, voilà, tout mon travail, c'était de réinscrire la création d'entreprises dans un réseau de structures, de relations, d'acteurs qui épaulent, soutiennent cette création, cette activité de création, mais aussi de rendre compte des logiques d'étiquetage, à la fois quels critères président à l'étiquetage d'une entreprise comme start-up, quels sont les critères légitimes, qui a le pouvoir de cet étiquetage et quels sont les débats, les conflits, les luttes autour de cet étiquetage. Donc finalement, j'appréhende la start-up comme une étiquette à poser à une entreprise.
Un label. Et au fond, d'ailleurs, en termes de politique publique, ça peut être un label dans certains cadres. On va y revenir. Mais avant de revenir à la situation française qui vous occupe principalement dans cette enquête, faisons juste un tout petit détour historique. Vous le faites dans l'ouvrage. Parce que ce mot, évidemment, il est anglais et c'est pas un hasard. Il vient d'un univers très particulier qui est la Silicon Valley en particulier. Donc c'est plutôt là que cette idée de start-up émerge. Et déjà là, avant l'importation, quelques temps plus tard en France comme dans beaucoup d'autres pays du monde, il y a des critères qui commencent d'apparaître. C'est-à-dire, la start-up, ça peut se définir à la fois en prenant en compte des dimensions technologiques, des dimensions économiques ou de financement spécifiques. Et puis, ça s'insère aussi dans des politiques publiques. En gros, c'est un petit peu les trois dimensions qu'on voit déjà poindre dès le départ.
Effectivement, moi, ce que j'ai essayé de retracer, c'est les logiques d'émergence de ce monde au sein de la Silicon Valley, en partant de l'idée que c'est pas quand au moment où apparaît le terme dans la presse américaine que vraiment le modèle apparaît. Cette étiquette, elle naît de la volonté de nommer une réalité qui est déjà en train de se constituer. Et donc, j'essaye de remonter un peu plus loin en m'appuyant sur des travaux d'historiens spécialistes de la Silicon Valley. Donc, je remonte aux années 30-40, où on voit émerger les premières entreprises technologiques dans la Silicon Valley qui naissent déjà d'une volonté de rupture vis-à-vis des grands monopoles technologiques des industries du semi-conducteur à l'époque, une volonté de rupture qui se voit à la fois dans leur mode de production mais aussi dans leur mode d'organisation du travail. On a déjà des entrepreneurs qui se revendiquent de méthodes de management plus cool, plus relâchées, sans costard cravate, avec des petites équipes autonomes d'ingénieurs. Et on a aussi déjà un modèle d'entreprise qui se constitue avec l'aide de l'État fédéral dans la Silicon Valley, qui subventionne, qui aussi légifère pour protéger ces innovations à travers des brevets, et qui va aussi à travers l'armée être un débouché important de ces technologies. Et assez rapidement, mais quand même le temps fait les choses, des acteurs privés vont prendre le relais de ces investissements publics, notamment par des fonds d'investissement de capital risque qui vont se constituer et puis grossir au fil des décennies. Et c'est vraiment ces acteurs-là qui vont être au principe de ces modes de financement si particuliers des startups qui vraiment, selon moi, en font des entreprises pas comme les autres, puisqu'elles se financent par levée de fonds et donc par spéculation auprès d'acteurs d'actionnaires privés.
Oui, d'un point de vue économique, ce qui compte, c'est pas la rentabilité à court terme. C'est éventuellement un espoir de très forte rentabilité, mais il est assez éloigné, en fait. En gros, le modèle économique des startups, c'est lever le maximum d'argent avant même souvent d'avoir trouvé un modèle économique, croiser les doigts en espérant qu'on trouve ce modèle avant qu'il y ait encore du cash dans la réserve, quoi.
Absolument. Et de fait, il est hautement incertain. Il y a des grandes incertitudes à la fois sur la faisabilité des projets, puisque l'idée, c'est de lever des fonds sur une idée avant même d'en avoir créé le prototype. Alors, de fait, plus c'est concret, plus on arrive à lever des fonds. Mais la réalisation, la technologie qui n'est pas toujours certaine. Et puis, ce qui est aussi hautement incertain, c'est est-ce que cette invention, finalement, parce qu'au départ, c'est une invention, va connaître un marché. Et ça, c'est ce qui fait que plein de startups qui ont été financées, qui ont levé énormément de fonds, finissent par parfois mettre la clé sous la porte parce que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il y a une logique spéculative derrière la startup, avec effectivement une volonté de croissance sans qu'il y ait une rentabilité derrière, un modèle stable qui permette leur pérennité.
un petit côté économie casino, en fait, qu'on peut retrouver, ça m'a frappé aussi en vous lisant, du côté de l'économie, de la littérature et des prix littéraires, parfois, où un certain nombre d'éditeurs jouent à ce jeu, d'acheter plein de tickets et puis de se dire, il y aura peut-être le gagnant parmi ceux-là. Bah, des capital risqueurs font un peu la même chose avec les startups. Alors revenons, ça c'est de façon générale, ça commence à se mettre en place aux États-Unis. En France, il y a une première tentative d'importation qui correspond un peu à la première bulle Internet aux années 2000, puis elle va éclater assez vite, cette bulle. Donc finalement, le mot start-up, c'est intéressant, d'ailleurs, vous le relevez, je l'avais complètement oublié, est devenu maudit, en fait, à ce moment-là, au début des années 2000. C'est-à-dire qu'il est importé aux États-Unis, mais en fait, c'est pas très désirable d'être une start-up, ça désigne plutôt de l'échec que la réussite. Il va falloir attendre le moment d'après, c'est-à-dire le Web 2.0, qui prend tout son essor à partir de 2008-2010, pour que, là, le mot start-up reprenne une connotation positive dans l'économie française, Marion Fleischer.
Absolument, j'avais fait ce petit exercice de regarder le nombre d'occurrences du terme start-up dans la presse nationale française, et on voit vraiment effectivement les deux vagues là, l'importation dans les années 2000 avec la bulle, avec l'essor d'Internet, hein, et puis donc toute l'économie de ce qu'on a appelé la nouvelle économie qui s'est déployée à ce moment-là, et qui était d'ailleurs portée par des chercheurs généralement, voilà, qui venaient du monde de la recherche, qui montaient des start-up à cette époque-là, qui
ont été touchés assez vite par des crises financières. Par ailleurs, autres, etc.
Absolument. Mais, ouais. Et donc, en 2002, quand la bulle Internet éclate, la France n'est pas dotée d'institutions suffisamment solides pour résister à l'éclatement de cette bulle. Et on voit vraiment une disparition de ce mot maudit. Mais par contre, voilà, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment cette mode, en fait, réapparaît, prend au détour des années 2010. Et je pointe à cet égard, la centralité des politiques publiques qui en ont soutenu très fortement et voilà, l'essor, le développement en France. Je fais le parallèle avec le fait qu'à cette époque-là, c'est aussi le moment où Uber commence à s'implanter en France, Airbnb, etc. Donc on a aussi toutes les start-up américaines de la nouvelle économie qui arrivent en France, qui font changer certains secteurs traditionnellement investis par des entreprises classiques. Et donc on va avoir un contexte favorable à l'émergence de ces entreprises innovantes.
Alors c'est concomitant, grosso modo, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir. C'est la gauche au pouvoir qui va inventer ces politiques publiques très centrées autour de ce mot-clé qui est l'innovation. Non pas que l'innovation n'existait pas comme concept avant. Il y a un fameux laboratoire de sociologie qui s'en occupe depuis longtemps, mais peut-être dans une autre acception à l'École des Mines. Mais en fait, le mot innovation va prendre un tout autre sens du point de vue de catégorie opératoire de la politique publique avec ces start-up à partir de ce moment-là. Alors pour enquêter là-dessus, c'est-à-dire à la fois sur les start-up elles-mêmes, sur ce qui les définit, mais aussi sur la manière dont elles deviennent un objet d'attention pour les pouvoirs publics, vous avez mené cette enquête de plusieurs manières. Vous avez interrogé des gens qui avaient été partie prenante de cette aventure, de cette expérience, qui avaient participé, lancé, travaillé à l'intérieur d'eux ou créé des start-up. Et puis vous vous êtes immergé aussi dans deux start-up, l'une qui n'a pas marché, comme la plupart des start-up, et l'autre qui a bien marché, comme ça arrive aussi parfois, en essayant de comprendre, j'imagine, les ressorts, non pas les recettes du succès, c'est pas ce qui vous intéresse, mais bien plutôt la façon dont ces univers fonctionnaient. Comment vous avez articulé ces deux dimensions de l'enquête, entretien, observation ?
Oui, effectivement, je les ai vraiment pensés comme des volets qui documentaient plusieurs réalités de ce monde-là, puisque comme je le disais au départ, comme c'était une catégorie chargée de nombreuses représentations, je ne voulais pas ni me focaliser sur un secteur d'activité particulier, ni sur un type d'acteur particulier. J'avais vraiment envie de comprendre de quoi la start-up était le nom et la saisir dans toutes ses dimensions. Donc à la fois dans ses dimensions idéologiques, en regardant les politiques publiques qui avaient encouragé, soutenu la création de ces entreprises, et puis voilà, leurs effets concrètement dans le paysage institutionnel en France, comme aux États-Unis, et puis aussi dans sa dimension économique, c'est-à-dire c'est quoi créer une start-up, en quoi est-ce que c'est différent de créer une entreprise classique, et quels sont les profils, les trajectoires de ces créateurs et créatrices d'entreprises, est-ce qu'ils se distinguent d'un autre type d'entrepreneuriat, en quoi. Donc voilà, c'était le deuxième volet, et puis effectivement, comme je suis sociologue du travail et de l'emploi initialement, j'avais aussi un questionnement questionnements autour de des dimensions organisationnelles, managériales de ces entreprises, puisque la start-up revendique aussi des modes d'organiser.
Des relations sociales différentes, oui.
Absolument, puis un modèle d'organisation qui se veut soi-disant plus horizontal, plus cool, plus relâché. Donc je voulais aussi aller investiguer ces promesses-là en les confrontant à la réalité du terrain.
Alors, qu'est-ce qui distingue une start-up d'une entreprise qui lui ressemble, c'est-à-dire qui est, par exemple, aussi jeune qu'une start-up, aussi petite qu'une start-up, qui, par exemple, peut aussi s'intéresser à des technologies, mais qui ne serait pas une start-up? Et peut-être le fait que, justement, dans les start-up, c'est l'un des éléments, on raconte une histoire pour raconter ce que va devenir cette entreprise et on incarne cette histoire par, en particulier, la personnalité ou les personnalités des fondateurs. Alors que, s'agissant d'entrepreneurs plus classiques, ceux-là finissent peut-être par, au fil du temps, à mesure que leur entreprise ont du succès, acquérir une notoriété, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Pour la start-up, c'est un peu à l'envers, en fait. Ils ont une notoriété avant d'avoir fait quoi que ce soit, d'une certaine façon.
Oui, puis ça rejoint donc la question du modèle économique dont je parlais et l'aspect spéculatif, c'est-à-dire que contrairement à une entreprise classique et qui, si elle est classique, c'est parce qu'elle est le modèle économique est plutôt connu. L'idée, c'est de générer du profit et puis de financer la croissance avec ce profit généré. Ce type de modèle est facilement, facilement. On peut aller voir des banques pour ça. Ils connaissent plutôt bien la mesure de ce type de risque encouru. Pour
les startups, ils ont des indicateurs, des repères. Ils peuvent comparer avec d'autres projets.
Pour les startups, on est vraiment sur une situation plus d'incertitude parce qu'il est, comme je le disais, difficile de savoir si ça va fonctionner. Donc, il y a des acteurs qui se sont spécialisés dans le type de financement des startups. Donc déjà, ce qui est spécifique, c'est justement les acteurs qui interviennent dans l'accompagnement et le financement de ces entreprises-là. C'est pour ça que je parle de monde et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, c'est qu'une start-up est peut-être davantage une start-up parce qu'elle est reconnue comme telle par des organisations qui se sont spécialisées dans leur accompagnement et dans leur financement. Donc ces acteurs, ils sont à la fois publics, il y a la BPI France, la Banque Publique d'Investissement qui joue un rôle central dans le subventionnement de ces entreprises en démarrage.
C'est une banque qui est très différente de ce point de vue-là des autres banques.
Absolument, c'est une banque publique qui est financée par l'argent public et qui va justement sécuriser la prise de risque des acteurs privés qui interviennent ensuite, puisque c'est vraiment un tampon.
Mais en écho, enfin en retour, elle prend des risques considérables en fait, comparé à ce que font les autres banques d'habitude.
Elle prend des risques considérables, sauf que toute une partie de son activité est considérée comme de la subvention publique, donc il n'y a pas d'idée de retour sur investissement, mais effectivement, cette banque a aussi développé une activité d'investissement, donc non seulement son activité sert à dérisquer ensuite l'activité d'investisseur privé, mais elle permet aussi elle se comporte aussi comme un investisseur privé qui va évaluer la prise de risque liée à un projet et se comporter comme un actionnaire. La BPI France, c'est un des plus grands financeurs des startups françaises actuellement. Donc ça, c'est vraiment une première institution qui joue un rôle majeur. Ensuite, il y a d'autres institutions qui ont émergé avec le monde des startups. Si je vous parle d'incubateurs, d'accélérateurs, ça va vous parler.
Il y a un vocabulaire spécifique.
Effectivement, mais c'est pas seulement un vocabulaire. Ce sont aussi des institutions très concrètes, matérielles, qui existent et qui donc sélectionnent des projets d'entreprises et ensuite hébergent, accompagnent ces entreprises-là. Donc, ce sont le parcours entrepreneurial d'un startupeur est extrêmement codifié. Il faut qu'il valide des étapes pour ensuite espérer connaître le succès et arriver éventuellement jusqu'à la première levée de fonds auprès de fonds de capital risque.
C'est une sorte de processus de mise sur orbite, de fusée en quelque sorte économique avec différents étages qui viennent s'ajouter. Et puis il y en a beaucoup qui se crashent en fait, n'atteignent pas l'orbite de l'autre planète qu'elles visent en fait.
Absolument. Alors là, c'est aussi un des objets de mon travail, c'est de à la fois comprendre et saisir quelles sont les conditions d'accès à ce monde, puisque c'est un monde, je le disais, institutionnel.
Oui, c'est-à-dire que tout le monde, pour poursuivre ma métaphore, tout le monde ne trouve pas les moyens de construire la première, la petite fusée qui permet juste de décoller, quoi.
Absolument. Tout le monde n'accède pas à un accompagnement par un incubateur, tout le monde n'accède pas à une subvention de la BPI.
Et là, le capital qui compte, c'est pas nécessairement le capital sonnant et trébuchant, financier, c'est plutôt un capital relationnel. Ça peut être des diplômes, mais ça peut être beaucoup des réseaux qui vous permettent d'accéder à ces financements. Ça permet un petit lien, parce qu'au départ, quand même, dans l'acception américaine, les startups, c'est quand même très lié aux universités. C'est très lié, en particulier à Stanford. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs et des chercheuses qui sont encouragés à créer leurs propres entreprises. Alors, on a vu ça dans certaines startups françaises, mais aujourd'hui, la réalité sociale des startups, c'est considérablement éloigné de ce modèle-là, qui est simplement celui de la chercheuse ou du chercheur qui devient entrepreneur.
Oui, d'ailleurs, on entend souvent dans ce milieu-là que les chercheurs, chercheuses ne savent pas vraiment vendre leur idée. Hein. Ils sont très bons pour concevoir, mais ils ne savent pas vendre. Et ce qui est attendu hein, d'un bon start-upper, c'est de savoir effectivement s'entourer des bonnes personnes, des relations clés. Donc ça demande du capital social, pour le dire un peu comme Bourdieu. Hein. Et ce capital social, il est constitué au fil du parcours scolaire. Donc le plus vous allez passer par des institutions qui permettent ce développement de ces relations pertinentes, le mieux vous allez être armé pour la suite. Vous pouvez aussi l'hériter de votre milieu familial, hein, si vous êtes relativement proche d'un milieu d'affaires. Mais ça demande aussi d'avoir un habitus, si je parle en sociologue, qui permette de convaincre des investisseurs de la faisabilité de votre projet, de sa portée. Et donc, pareil, ces qualités ne sont pas données à tout le monde. Pour être convaincant, il faut avoir appris à
présenter. Des pitchs, il y a une dimension narrative qui est très, très importante. C'est-à-dire, il faut déjà avoir commencé de raconter l'histoire avant qu'elle commence, en quelque sorte.
Absolument. Et ces personnes qui sont formées à ces exercices oraux, ce sont plus souvent des diplômés d'écoles de commerce, de plus en plus d'ingénieurs qui ont, dans leur formation, hein, vraiment des modules spécialisés dans la formation à l'entrepreneuriat. Ils sont rodés à l'exercice. D'ailleurs, pour valider leur année, généralement, ils doivent faire des concours de pitch, des concours de start-up. Et donc, ce sont ces personnes-là qui constituent en France le principal vivier hein, de créateurs et créatrices de start-up.
Je voudrais rebondir sur l'expression école de commerce, parce qu'effectivement, ils viennent d'écoles de commerce, mais ce qui est frappant dans beaucoup de ces projets, c'est qu'ils ne se posent qu'assez peu, en fait, la question du commerce. C'est-à-dire que la question du marché, la question des débouchés pour leurs produits, elle est moins importante que la question de la finance, en fait, la question du financement, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui va être recherché, c'est le caractère spéculatif, la capacité de lever des fonds très rapidement, et de croître et donc d'embaucher des gens en se disant qu'on trouvera toujours la solution pour écouler ce qu'on a eu l'idée d'inventer en quelque sorte. J'exagère, je force à grands traits.
C'est quand même important, mais je dirais qu'effectivement ça arrive peut-être dans un second temps. Le premier enjeu, c'est de pouvoir développer techniquement la solution. Et pour cela, il faut convaincre des investisseurs pour pouvoir avoir cet argent nécessaire au développement. Et donc effectivement, avant même d'avoir vendu la solution, il faut d'abord aller chercher des financements, produire un premier prototype et ensuite penser à le vendre. Et donc c'est pour ça que quand les startups commencent à avoir levé plusieurs millions d'euros à embaucher une équipe assez conséquente, elle est là, la pression des actionnaires, c'est que maintenant, il faut vendre. Et donc maintenant, il faut faire du chiffre. Donc je dirais qu'elle existe quand même.
Il faut monétiser, comme on dit.
Absolument. Elle existe, donc cette pression commerciale, mais elle arrive dans un second temps de la création.
Alors, Marion Fleischer, vous avez aussi essayé, à travers cette enquête, qui est une thèse de doctorat au départ, maintenant c'est un livre, un vrai livre, vous avez essayé de comprendre aussi ce qu'il en était de l'aspect cool des startups, de l'organisation du travail, parce que c'est important de le comprendre, non seulement pour saisir cet univers-là particulier, qui pèse pas lourd quand même dans l'économie française, mais qui pèse lourd symboliquement et qui prétend, d'une certaine façon, peser, influer sur des univers économiques ou sociaux qui sont fort éloignés, et on aura l'occasion de le voir en deuxième partie, y compris sur le service public d'ailleurs. C'est-à-dire le mode d'organisation, ces façons d'être agiles, j'ai jamais compris très bien ce que ça voulait dire, mais en tous les cas, ces organisations non hiérarchiques ou qui se prétendent telles, vous les avez observées d'assez près à travers vos questionnaires et vos périodes passées dans des startups.
Oui, c'est ça. J'ai fait, comme on dit en sociologie, de l'observation participante. Donc, je me suis faite embaucher dans deux startups en tant que stagiaire. Et donc, j'ai pu voir et documenter au plus près l'organisation du travail. Donc, la première startup où je me suis faite embaucher, c'était une startup en démarrage assez emblématique d'un cas, effectivement, de création. Hein, comment on se lance. Donc, il y avait seulement les fondateurs et quelques stagiaires. Je montre aussi comment le lancement de ces entreprises repose souvent sur le travail gratuit de ces étudiants qui, en fait, pour valider leur diplôme, ont besoin de faire des stages et donc fournissent cette main-d'œuvre peu onéreuse et puis relativement docile et investie, donc dont j'ai fait partie. Et puis bon, il se trouve que cette start-up a fini par être abandonnée, ce qui en a fait un cas aussi emblématique des nombreux cas d'échecs que représentent ces entreprises aussi. Mais bon, comme je pouvais pas difficilement faire une thèse sur un cas d'échec, j'ai voulu aussi aller faire un autre terrain d'enquête dans une start-up un peu plus avancée.
Qui est devenue ce qu'on appelle une licorne.
Et qui a été un cas de succès, effectivement.
Les licornes, c'est souvent ces entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur.
Alors, qui sont valorisées,
c'est pas
ça,
le chiffre d'affaires.
À plus d'un milliard d'euros.
Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Absolument. Et donc là, pour le coup, je me suis fait embaucher et je suis restée 4 mois dans cette start-up qui venait de lever 40 millions d'euros et de passer de 60 à 120 salariés en 6 mois. Donc, pour se rendre compte, c'est quand même très rapide. Ils ont vraiment doublé leurs effectifs. Et là, c'est d'autres enjeux auxquels elles sont confrontées.
Ça pose des enjeux de relations humaines. D'ailleurs, c'est dans ce domaine que vous étiez qui sont passionnants, parce que c'est pas tous les jours qu'une entreprise double ses effectifs en si peu de temps.
Absolument. Donc, j'étais effectivement employée au sein du département des ressources humaines et il y avait énormément de travail puisque le nombre de recrutements dans ces entreprises est assez considérable et surtout rapide et il faut ensuite réussir à adapter les procès de travail, les modes d'organisation de travail à cette main d'œuvre qui croît énormément et qui génère par sa rapidité de nombreuses tensions, de nombreuses désillusions. Donc c'est ça que j'ai essayé de documenter à travers mon immersion.
Ça vous permet de mettre un peu à distance quand même le mythe de cette organisation qui serait radicalement différente de celle des autres entreprises, non ?
Oui, mais en même temps, je pense que voilà, mon travail permet à la fois de souligner que ce ne sont pas que des promesses ou que du discours et rien dans la réalité. Il y a un arsenal managérial qui caractérise et distingue les startups d'autres entreprises, notamment dans la place qu'elles accordent, par exemple, au collectif de travail, à ces temps informels qui servent à créer du lien. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris, enfin, les fondateurs ont bien compris que créer du lien, de l'attachement affectif, ça crée de l'engagement. Et ça crée de la loyauté envers l'organisation. Donc c'est un des piliers assez centraux dans les startups. Quand on parle de happiness manager, de centralité du bonheur au travail, on peut en rire, mais c'est un instrument managérial mis au service de l'auto-engagement des salariés.
Mais dans quelle mesure c'est différent du capitalisme paternaliste qu'on connaît depuis le 19e siècle, avec y compris des chefs d'entreprise qui avaient créé des villages pour leurs ouvriers, sans parler de ceux qui étaient les plus utopiques, comme Godin, etc. Mm-hmm. Mais au fond, est-ce qu'il y a une vraie différence ?
Il y a des inspirations, c'est sûr. Comme quand je parle des méthodes par projet, elles ne sont pas nouvelles en soi, elles existent depuis les années 90. Pour autant, c'est plutôt la concomitance et l'utilisation conjointe de ces différents dispositifs qui fait selon moi la spécificité de ce modèle, puisque tous les leviers sont activés en s'inspirant effectivement d'autres modèles préexistants qui ont fait plus ou moins leurs preuves, pour tenter de créer, de susciter l'auto-engagement au travail des salariés sans recourir à la contrainte verticale, hiérarchique, bureaucratique qui, elle, est critiquée, disqualifiée autant par les fondateurs de start-up que par les travailleurs et travailleuses.
Alors, je sais bien qu'il y a dans les grandes entreprises aussi des responsables des affaires publiques, mais j'imagine quand même que l'activité qui consiste à aller à la chasse aux subventions, aux aides, aux dispositifs, est quelque chose d'assez développé pour des petites structures comme les start-up, parce que c'est décisif pour leur durée de vie, au fond.
Absolument, et c'est souvent d'ailleurs, vous parliez de ces profils d'école de commerce qui font pas tant du commerce, mais qui en fait, dont le travail consiste à aller chercher des financements. Il est d'usage dans les créations de start-up d'associer plusieurs profils, donc un profil typiquement technique qui sort d'école d'ingénieur avec d'autres profils typiquement école de commerce pour se diviser le travail. Donc certains vont coder pendant que les autres vont aller chercher des subventions, des financements. C'est quand même une activité qui leur occupe, enfin qui occupe les premiers mois, voire les premières années de ces entreprises et qui est déterminante pour la suite, puisque ça acte la vie ou la mort de ces entreprises assez rapidement.
Alors, vous avez travaillé sur les startups et dans les startups, mais les startups, ça dépasse au fond cette réalité sociale-là, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a les représentations des startups dans la société ont un poids assez considérable qui a infusé des sociétés plus anciennes, plus traditionnelles, ont pu tenter d'essayer de ressembler à des startups, voire d'en créer à l'intérieur d'elles-mêmes, comme des filiales un peu laboratoires. Bref, la startup est devenue une sorte de référent, quelque chose à la mode, au fond. Comment vous analysez ça à la mode, jusqu'y compris à l'intérieur du secteur public, ce qui n'est pas très surprenant vu la proximité en fait entre le secteur public et les start-up, Marion Fleischer.
Oui, effectivement, c'est notamment une des raisons qui m'a fait vouloir investiguer quels étaient les leviers, mais aussi les limites, les dérives de ce modèle organisationnel, parce que je voyais bien qu'il se diffusait bien au-delà de ce monde, à la fois dans les grandes entreprises qui cherchent à devenir agiles, qui organisent justement des ateliers d'open innovation en invitant des startups, en faisant des petits ateliers avec des post-it pour essayer de s'inspirer de leur mode de management, mais aussi effectivement dans la sphère publique où on a vu émerger des startups d'État, où Emmanuel Macron lui-même dans certains de ses discours revendique que l'État lui-même devrait se comporter comme une plateforme, comme une start-up. Donc, en documentant ces leviers de production de l'engagement au travail des salariés qui reposent sur le collectif, la responsabilité, l'autonomie, mais qui produit aussi de grandes inégalités et aussi de grandes dérives, puisque ce que ça fait, c'est que notamment tout le monde travaille beaucoup plus que d'ordinaire. Eh bien, c'est aussi de montrer les limites d'un modèle qui est effectivement érigé comme modèle à suivre. Et je pense que c'est important dans le contexte actuel.
Alors, on va voir ce qu'il en est du côté du service public, dans quelle mesure ce phénomène des start-up a infusé et de quelle manière, surtout, il contraste en fait avec la situation de service public. On en parle avec un réalisateur, le réalisateur du documentaire Hors Service, Jean Boiron-Lajoux, qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est après un extrait du nouvel album de Westerman, Never Mind.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Never mind. Flow, sing, as the time. She fingered the muddy ground and sold me all the luck she's finding. I lingered as people do. We fall into a truce that's binding. Never mind. Never mind. Never mind. You are angry with something that is not there. In the bramble, in the summertime of care. Never mind. What I said, I forgot, I meant it. What I said, though I forgot, I meant it. What I said, though I forgot, I meant it. Well, never mind. Never mind. I
parle de monde du travail aujourd'hui, à la suite dans les idées, le monde des start-up dont on a parlé dans la première partie et celui des services publics qu'on va aborder maintenant avec vous, Jean Boiron-Lajoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à distance avec nous. Vous avez réalisé un documentaire hors service qu'on peut voir en ce moment en France dans les salles. Il tourne à la faveur de séances spéciales. Il sortira en DVD en janvier prochain. C'est un film qui est nominé, comme on dit, au César pour l'année prochaine. C'est un documentaire très saisissant. Je vous laisse nous décrire le dispositif que vous avez mis en place, qui est particulier. Vous avez d'abord procédé en faisant un casting qu'ensuite vous avez implanté dans un lieu. Je vous laisse nous expliquer.
Oui, c'est ça. Alors, je m'intéressais à la figure des démissionnaires de la fonction publique qui, pour moi, incarnait un paradoxe qui était les conditions sont telles que beaucoup de gens qui partent ne sont pas des gens qui partent par des intérêts, mais par des illusions et par difficulté à faire leur travail correctement. Et donc, j'ai confronté cette idée à effectivement un appel à témoignage national et j'en ai ressorti 6 personnes à qui j'ai proposé de faire un film dans un hôpital désaffecté. Et donc, le film consiste à la réappropriation de ce lieu, à leurs rencontres et à leurs échanges sur non seulement la démission qu'ils partagent tous, mais aussi certaines valeurs et certaines désillusions.
Alors, d'un point de vue formel, le film s'ouvre comme une expédition d'urbex. Ça m'a fait penser aux travaux de Meffre et Marchand sur ces immeubles publics du centre de Détroit, désaffectés depuis des dizaines d'années, à propos desquels ils ont fait des photographies. Vous entrez avec des lampes torches, en l'occurrence dans un hôpital, où s'installent vos 6 personnages, qui sont des témoins, et vous les avez choisis parce que chacun a une expérience d'un service public différent.
Oui, c'est ça. Alors, dans le film, il y a un ancien facteur, une ancienne juge, une ancienne anesthésiste réanimatrice, un ancien policier et 2 anciennes enseignantes. Et c'est vrai que l'idée, c'était non seulement qu'ils se rencontrent et qu'ils se parlent entre eux et qu'ils s'écoutent entre eux, c'était évidemment de faire le lien entre tous ces domaines dont on sait, en fait, qu'il y a une souffrance quand même importante, mais on fait rarement le lien et l'analyse politique justement du service public en général. Et dans ce lieu, puisque évidemment c'était un terrain de jeu cinématographique énorme, et puis ça permettait un décalage en fait à la fois sur l'époque qu'on vit, c'est-à-dire l'hôpital, mais aussi toutes les autres structures publiques sont là, elles sont délabrées, mais elles ne sont pas du tout tout à fait mortes, loin de là. C'est une sorte d'archéologie du présent, de quelque chose qui est un petit peu dans une déliquescence, une défaillance organisé avec au milieu des gens, un gâchis en fait, avec des travailleurs et des travailleuses qui ont énormément à apporter et qui finissent par craquer.
Ce qui frappe d'emblée, en entendant les prises de parole tour à tour, c'est qu'on est bien au-delà, au fond, du constat partagé, dénoncé souvent par beaucoup, du manque de moyens des services publics. C'est pas juste que ces gens étaient confrontés à une baisse régulière de leurs moyens, des capacités d'agir, de travailler correctement. C'est que ce qu'ils vivent le plus mal et ce qu'ils ont vécu le plus mal, au fond, c'est les enjeux de représentation de leur travail, l'imposition de grilles, de schémas, l'imposition d'une idéologie, au fond, du travail qui consiste à... Enfin, qui est regroupée sous des acronymes de RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, ou du New Public Management. Toutes ces façons idéologiques d'organiser le travail qu'on s'est employées, que certains se sont employés à injecter dans le service public. Au fond, c'est ça qu'ils ont particulièrement mal vécu.
Oui, il y a souvent un malentendu sur l'origine de la souffrance au travail dans le public. Et moi, c'est vrai qu'en incarnant cette souffrance, ce qui m'a touché, c'est que on pense souvent au surmenage et à la surquantité de travail. Et en fait, c'est souvent, contrairement à ce qu'on pense, c'est la perte de sens qui est difficile et qui est vraiment souvent induite par ces nouvelles publics managériales qui sont pas sans lien avec la fascination de la première partie de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a quand même, chez nos politiques, une fascination pour certaines techniques managériales en l'associant à une idée d'efficacité, alors que finalement, ce qui se retrouve sur le terrain, dès qu'on écoute les usagers, les usagères, mais aussi les gens qui y travaillent, c'est qu'en termes d'efficacité, on n'y est pas. Et comment on évalue justement cette efficacité? Et ce qui les rend malheureux, c'est justement cette impression, enfin, ce qui crée la souffrance pure et dure, c'est la perte de sens, l'impression que les tâches essentielles, tout ce qui est de l'ordre vraiment du lien avec l'usager et de la mission d'intérêt général, sont complètement parasitées par des tâches annexes, induites souvent par ces techniques managériales. Et c'est cette impossibilité en fait de faire purement et simplement son travail, et c'est cette perte d'autonomie qui va créer la souffrance.
Marion Fléchère, vous avez eu l'occasion de voir ce film.
Oui, merveilleux documentaire, vraiment que je recommande chaudement. C'est un documentaire, je pense, important, qui montre effectivement très bien ce que fait l'importation de logiques gestionnaires, capitalistes au sein des services publics. Parce que donc j'ai travaillé sur les startups, mais étant maîtresse de conférence, je suis aussi dans le service public. Et ça m'a vraiment touchée de voir comment, enfin ce que font ces logiques gestionnaires aux vocations de ces agents du service public qui généralement font le choix du service public au détriment d'autres métiers mieux rémunérés, mieux considérés, et qui sont prêts à se dédier à cette mission qui leur est conférée. Et on voit comment ces logiques ébranlent cette vocation, la met à mal, alors qu'ils se sont battus, hein, ils se battent tous et tout au quotidien pour tenter de faire leur travail comme ils aimeraient que ce soit fait. Et pourtant, en plus, il y a ce paradoxe qu'on a vu pendant la pandémie, de tous ces métiers qui sont absolument centraux, à la fois dans la vie des Français et Françaises, mais aussi dans le fonctionnement du pays. On a eu des promesses qui ont été faites par les pouvoirs publics à cet endroit, et on a bien vu que derrière, ça ne s'est pas du tout accompagné de véritables mesures. Et je pense que, enfin, pour faire le parallèle avec mon objet, enfin, c'est de l'ordre de la vision politique, du projet politique, puisque au même moment où les pouvoirs publics, Emmanuel Macron réduisent les subventions données à tous ces services en disant là que ça coûte trop cher, que du coup l'éducation, la santé, tous les domaines voilà du service public ont du mal à vivre, la justice, et bien au même moment c'est 63 milliards d'euros qui sont investis dans le financement des start-up par la BPI France. Donc je trouve que ce parallèle, il est assez saisissant. Ce sont des choix politiques de où est-ce qu'on met l'argent? Est-ce qu'on met l'argent pour investir avec une idée de l'État investisseur qui veut un retour sur investissement, ou est-ce qu'on met l'argent dans nos services publics, ce qui effectivement n'est pas le même choix.
Jean Boiron-Lajoux, vos protagonistes dans le film, quel regard porte-t-il sur cet autre univers, celui dont on a parlé dans la première partie?
Alors, j'y pensais justement en écoutant Marion Fléchère, parce que ça a été un terme qui a été utilisé plusieurs fois, le terme de start-up, justement comme quelque chose, comme un univers qui arrivait à eux et avec lequel ils n'avaient rien à voir. J'y pense justement, il y a Nabil, l'ancien policier, qui, au moment de la mise en place de la politique du chiffre dont il parle dans le film, à savoir que c'est plus apprécié et plus valorisant pour un policier de ramener plein de petites affaires qu'une grande. Et ça, il disait, ce n'est plus la police, on n'est plus au service de l'intérêt général, là, ça devient une start-up. Et je pense que ce n'est pas exactement vrai ce qu'il dit, mais que ça représente bien ces logiques, en fait, qui sont importées, qui sont complètement déconnectées de ce que c'est que la mission d'intérêt général qui est censée caractériser le service public. Et ça, c'est quelque chose que peut dire aussi une enseignante dans le film, quand elle raconte qu'elle n'a pas réussi à négocier un redoublement qu'elle pensait essentiel, parce qu'on lui a répondu que bon, le rectorat allait répéter qu'un redoublement, ça coûtait je ne sais plus combien d'euros, et qu'en fait, ça allait être recalé. Et c'est vraiment ce monde du chiffre et des objectifs qui sont détournés, en fait. C'est-à-dire, ils sont plus là pour la mission, ils sont là pour des objectifs de rentabilité, ils le sentent. Et ça, je pense qu'ils l'associent à une culture qui leur est étrangère, en fait.
Dans le film, il y a ces dialogues, ces conversations entre ces six personnes. Il y a aussi des moments plus solennels pour lesquels vous leur avez demandé de lire leur lettre de démission, leur vraie lettre de démission.
Oui, à deux d'entre eux, j'ai demandé ça. Enfin, en tout cas, je l'ai gardé dans le film. Ça me paraît important, puisque ça me paraît important que ça soit un peu solennel, puisque la démission, elle peut être perçue à la fois comme un acte de résignation, d'abandon, et en même temps, dans le service public, enfin, un certain courage, et c'est souvent chez eux la continuité en fait de moments où ils se sont battus en fait. Et quand on se bat dans la fonction publique, c'est pas pour soi ou pour sa carrière, c'est avant tout pour parce qu'on y croit, quoi. Et je pense que ce qu'ils ont en commun, comme disait Marion, c'est certaines valeurs. En gros, pour résumer, une sorte de justice sociale. Enfin, ils ont voulu être utiles, ils se sont battus en ce sens. Et j'ai aussi intégré la lettre de la juge qui est dans le film, l'ancienne juge, qui est Floriane Chambert, et qui a eu une valeur un peu historique, puisqu'en fait, sa lettre a été reprise dans la tribune qui a été signée par les
par des centaines de magistrats, oui.
Voilà.
Par la suite.
Okay. Voilà.
Et Marion Fleischer, au fond, on voit bien ce qui se passe dans ce discours néo-managérial de la fonction publique qui consiste à tenter de débureaucratiser. On a le sentiment que la fonction publique est totalement bureaucratisée, perd du temps avec des tâches, etc. Et en fait, il y a probablement là une erreur de diagnostic considérable, parce que on ne peut qu'être frappé par le fait que les start-up elles-mêmes sont très bureaucratisées aussi. Alors différemment, elles n'ont pas les mêmes procédures, mais il y a des process, il y a des post-it, il y a des tas de façons. Et qu'en fait, la bureaucratie, c'est pas l'apanage du service public. Elle apparaît très rapidement dès qu'une organisation, quelle qu'elle soit, quel que soit son mode d'organisation, dépasse une certaine taille au fond. Et ça, la sociologie des organisations nous l'enseigne depuis fort longtemps.
Oui, puis je dirais que l'autre parallèle qui est aussi assez saisissant, c'est comment les agents de la fonction publique, et même, on l'a dit là, les malades, les élèves, sont considérés comme des coûts. Et ce parallèle, il est assez... il se retrouve dans les start-up, puisqu'on a aussi cette segmentation professionnelle, qui est aussi une segmentation genrée du travail, entre les fonctions dites de support, donc notamment, on parlait des ressources humaines, des responsables de ressources humaines qui sont considérés comme des coûts, alors même que eux, justement, leur rôle, c'est de faire en sorte de prendre soin de ces ressources humaines qui sont centrales, pourtant, autant dans les start-up, en fait, que dans l'appareil étatique, puisque c'est à ça que fonctionne un système. Et je trouve ça assez saisissant comment, même dans les start-up, il y a quand même, bien souvent, une sous-estimation de la valeur des ressources humaines, c'est-à-dire que, alors qu'elles reposent entièrement sur le travail fourni par des salariés, souvent, voilà, qui se surinvestissent au travail, qui, eux aussi, ont des vocations à travailler en start-up, mais qui parfois ne prennent pas la mesure de ce surinvestissement-là, et au point de ne même pas créer de département de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui fonctionnent sans RH. Et je trouve ça vraiment saisissant, cette façon de concevoir les individus qui pourtant veulent travailler, sont prêts à s'investir dans leur travail, eh bien seulement comme des coûts et non plus comme des ressources. Et je pense que c'est un changement de paradigme qu'il faudrait peut-être avoir sur le monde du travail.
Le monde des startups, c'est le titre de votre livre. Marion Fleischer, il paraît aux presses de Sciences Po. On trouve la référence sur la page de la suite dans les idées. Et votre film Hors Service, Jean Boiron l'ajoute, je le disais tout à l'heure, il est programmé avec des séances spéciales un peu partout. Certaines ont lieu bientôt. J'imagine qu'elles sont souvent accompagnées de rencontres avec le public, de débats avec des fonctionnaires.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement moi je l'ai porté pendant 2 mois, alors là ça commence à se calmer un peu, mais ce qui était atypique, c'est que les 6 personnes du film ont aussi accompagné le film en séance. Et effectivement, dans les salles, ça parle beaucoup. Ouais.
Merci. Merci beaucoup. On trouve la référence également sur la page de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi à propos de ce film Hors Service, c'est que ces fonctionnaires, ces ex-fonctionnaires qui investissent un hôpital à l'abandon, ont été invités par le réalisateur Jean Boiron Lajoux à emporter avec eux des objets de leur ancien métier, un uniforme pour le policier, différents objets. Ça fait écho à ce dont on va parler tout de suite avec vous, Sébastien Radouan. Une exposition, 800 musées, les objets nous racontent. Une exposition à l'initiative d'une association dans laquelle vous êtes investi aux côtés d'autres chercheurs et chercheuses, notamment, qui s'appelle Amulop et qui est dédiée à faire vivre l'histoire des banlieues populaire. Les 800 musées, ça fait référence à un lieu précis, à Aubervilliers, la barre des 800, qui va être détruit en partie, en grande partie, et à propos desquels vous avez eu l'idée de cette exposition.
Oui, bonjour. Donc la cité Émile Dubois des 800 Aubervilliers, donc elle est confrontée à la rénovation urbaine et tout au long de l'année 2025, nous avons collecté auprès des habitants des objets et des récits. Alors, il faut savoir que nous sommes installés dans cette cité depuis 2021.
Alors peut-être nous, c'est qui ? Ce sont des historiens. Vous-même, vous êtes un historien de l'architecture ?
Oui.
Vous êtes un médiateur culturel.
Aujourd'hui, je suis médiateur scientifique pour l'association. C'est une association, donc l'association pour un musée du logement populaire, qui réunit des enseignants du secondaire et des chercheurs en histoire qui travaillent ou habitent pour la plupart en Seine-Saint-Denis. L'association, elle est née justement d'enseignants du secondaire confrontés à des élèves qui ne se retrouvaient pas dans le roman national, ou aussi sinon ce sont dans l'association des chercheurs qui veulent décloisonner la recherche, justement faire science et société avec les territoires de banlieue.
Voilà. Et trouver d'autres formes que celles classiques, canoniques, des articles. Alors ça peut être là en l'occurrence une exposition, on va y revenir et vous allez nous dire en détail comment elle a été imaginée et ce qu'elle contient. Mais ce sont aussi des visites dans cette cité, vous avez organisé des visites dans des appartements.
Alors on s'est fait connaître en 2021-2022 avec l'exposition La Vie HLM, qui était donc une muséographie immersive. Là, ce que nous proposons jusqu'à dimanche, hein, parce que c'est une exposition
très courte. Ça vient d'ouvrir hier.
Voilà, c'était inauguré hier soir, donc c'est jusqu'à dimanche. Là, c'est une exposition, je dirais, plus classique. Voilà, c'est une salle d'exposition dans un des deux appartements que nous occupons, donc toujours dans la cité Émile Dubois. Donc c'est une salle dans laquelle sont présentés, mis à l'honneur, les objets qu'on a collectés.
800 objets ? Non, vous n'êtes pas allé jusque-là, quand
non,
même.
Non, bien sûr. On a collecté 13 témoignages qui sont autant d'objets voilà, que nous mettons à l'honneur dans cette salle sous forme de d'îlots, de stations voilà, qui finalement, je dirais, doivent permettre de reconsidérer en fait, notre regard sur des objets de la vie quotidienne. Et en miroir de cela aussi, comment valoriser, à travers ces objets, c'est aussi valoriser les habitants.
Mais alors, c'est quels objets, par exemple ?
Alors, par exemple, vous avez un Polaroid des années 80, vous avez des verres à thé, vous avez un cheval à bascule, un aquarium. Voilà, ce sont des objets ordinaires, en fait. Et c'est tout l'enjeu de l'exposition, c'est justement d'interroger et de démontrer, en fait, la dimension patrimoniale de ces objets. C'est questionner. Et reconsidérer notre regard, c'est s'interroger sur les valeurs en fait qu'on accorde aux objets, valeurs d'usage, valeurs marchandes, valeurs sentimentales, valeurs patrimoniales. Donc tout l'enjeu est là en fait, c'est de s'emparer de ces objets pour repenser aussi notre. C'est parce que c'est à travers ces objets, c'est vraiment des histoires d'habitants, quoi, des habitants qui sont confrontés à des démolitions, parce qu'il y a 388 logements sur les 700 qui restent dans le quartier, donc qui vont disparaître. Et c'est aussi donc qu'est-ce qui survit en fait à ces démolitions, à ces quartiers donc qui sont transformés, sont aussi des cultures de l'habitat, des cultures populaires qui disparaissent de fait. Et qu'est-ce qui survit ? Eh bien, ce sont bien souvent les mémoires et les objets. Et nous, en tant qu'historiens, on travaille bien sûr sur les archives et avec donc différentes sources là, que je viens de citer où on croise ces sources pour faire histoire en fait, pour faire vivre l'histoire des quartiers populaires.
Ces objets en fait n'ont rien d'extraordinaire. On peut les croiser sur n'importe quel dans n'importe quel vide-grenier, mais l'important, c'est justement de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas que dans les vide-greniers. C'est-à-dire que vous les mettez dans un endroit pendant quelques jours spécifiques qui offre l'occasion de s'interroger sur ce qu'ils représentent, ce à quoi ils ont servi, bien sûr, ce sont aussi des objets d'usage, mais ce que dans la mémoire individuelle des personnes qui vous ont parlé, mais aussi dans la mémoire collective, parce que ces objets, on en a tous eu, pas forcément tous ces objets, mais un certain nombre, selon les personnes. C'est aussi ça qui vous intéresse, c'est de mettre en regard une forme d'histoire orale, parce que ces témoignages, c'est quoi ? C'est des longs entretiens réalisés ?
Des entretiens, il peut y avoir parfois même deux entretiens qui font environ une heure et demie, deux heures. Et c'est vrai que c'est moins l'objet en lui-même, je dirais, qui nous intéresse, mais c'est la place qu'il occupe dans le récit d'habitants, dans l'histoire, dans le parcours en fait, des habitants.
Et ces habitants sont des gens qui sont restés longtemps, qui sont encore, mais qui sont depuis longtemps dans cette cité pour la plupart d'entre eux, ou ce sont des lieux de passage ?
On a travaillé avec des habitants et d'anciens habitants. Oui, il y a des habitants qui sont là. Je pense à une de nos voisines hein, qui est là depuis la construction, en fait, depuis 1957.
Une de vos voisines, parce que l'association habite voilà, cet endroit.
C'est ça aussi, c'est qu'en venant voir l'exposition, vraiment vous entrez dans une barre HLM, fort d'Aubervilliers, voilà, qui est en train d'être, où les habitants sont en train d'être relogés. Voilà, dans la cage d'escalier, on n'est plus que 3 locataires sur les 18 logements. C'est aussi, voilà, c'est voir aussi un quartier qui est en train de se reconfigurer, de se redéfinir avec ces grands travaux de rénovation urbaine en cours.
C'est des démarches de médiation scientifique et culturelle qui sont encore relativement rares s'agissant de l'habitat populaire en France. Il y a des exemples à l'étranger, je pense au Royaume-Uni notamment, où j'ai eu l'occasion de visiter ce type de logement, ou aux États-Unis. Mais au fond, il y a une démarche, alors on va reprendre un mot du vocabulaire de l'émission d'aujourd'hui, très innovante dans cette façon de relier la science et la société avec la MULOP.
Oui, c'est vraiment au cœur du projet. Et c'est vrai que c'est un des enjeux, c'est la participation habitante. Donc les habitants participent de fait par l'enquête orale lorsqu'ils acceptent de nous confier...
Donc il y a une dimension science participative, comme on dit aujourd'hui.
Oui, exactement, c'est ça, science participative. De fait, de par l'enquête orale, où il y a déjà, on nous confie en fait un récit, une histoire. Et puis on essaye aussi de mettre en place des dispositifs de participation pour justement co-construire en fait. Co-construire cette histoire des banlieues populaires avec les habitants, avec les territoires, ce que je disais. Ouais.
Est-ce qu'il y a un volet, parce que vous insistiez tout à l'heure sur le fait que l'initiative vient en grande partie d'enseignants du secondaire de la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a aussi un volet avec les scolaires, avec les élèves ?
Oui, complètement. Évidemment, on produit des connaissances et des savoirs sur les quartiers populaires, sur l'histoire des quartiers populaires et de ses habitants. Et ensuite, on travaille à la médiation en fait de ces savoirs. Sous la forme de balades urbaines, sous la forme aussi d'ateliers pédagogiques. Et en fait, en effet, autour de l'exposition, hein, on a mis en place des ateliers à Aubervilliers avec des enseignants de collège, de lycée, mais également même de maternelle. Quoi. Autour de l'objet, c'est extrêmement ludique, en fait, l'objet, pour l'éveil. Donc on est vraiment à tous les on est interdegrés. Voilà. Et puis aussi, on accueille aussi des étudiants avec leurs enseignants. Voilà.
Et ces balades urbaines dont vous parliez, alors elles sortent un peu de la cité, en l'occurrence à Aubervilliers. Qu'est-ce que vous apportez comme territoire du département ?
Alors, on a aussi mis en place avec la MC 93 le Grand Tour des Cités.
La Maison de la Culture qui est à
Bobigny. La Maison de la Culture, 93, donc, qui est à Bobigny. On a mis en place un cycle de visites qui sont 9 visites, chacune étant consacrée à un quartier populaire de Seine-Saint-Denis. Là, il y a la première partie, donc les 4 premières qui sont déroulées, notamment à Bobigny, dans plusieurs cités de Bobigny. Et moi, en tant qu'historien de l'architecture, j'ai une approche aussi beaucoup par l'histoire urbaine, l'histoire du logement. Il y a un apport aussi parce que chaque visite, on arrive à convaincre et à motiver un habitant, un ou une habitante ou ancienne habitante de venir aussi parler, en fait, témoigner en fait, de son histoire dans le quartier. Donc on revient sur des pratiques des espaces publics, sur les intérieurs domestiques, pourquoi la famille est arrivée dans ce quartier. C'est aussi comment incarner par-delà le discours, le propos sur une histoire urbaine et institutionnelle, c'est aussi comment est-ce qu'on vit en fait ce quartier à travers, bien sûr, un seul témoignage. C'est vraiment une personne seulement qu'on met à l'honneur aussi.
Mais il y a une forte, beaucoup de travail à faire dans ce domaine. En tous les cas, quand on propose des choses intéressantes dans ce domaine, ça marche et ça fait venir un public vers ces formes culturelles. Je pense en particulier au très beau succès de l'exposition Banlieue chérie à la Cité de l'immigration qui s'est tenue ces derniers mois. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui a été sans doute l'une des expositions les plus fréquentées de ce lieu important aussi. Merci beaucoup pour ces explications, Sébastien Radouan. Il faut se dépêcher, c'est jusqu'à dimanche seulement. On trouve les informations sur la page de la suite dans les idées. Les objets nous racontent, exposition 800 musées, c'est au fort d'Aubervilliers. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay, Sorge Leroy.